Le journal, Serge Martin, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, une hache de guerre peut être enterrée entre François Bayrou et Emmanuel Macron. 4 heures de négociations auraient, semble-t-il, permis aux deux mouvements de trouver un accord sur les investitures aux prochaines législatives. Accord qui doit encore être validé par le nouveau président de la République. Dans ce journal, nous irons également au Portugal où le pape François a été accueilli par une immense vague de ferveur. Le souverain pontife qui est arrivé hier au sanctuaire de Fatima pour célébrer le centenaire des apparitions de la Vierge Marie. De la chanson à la fin de ce journal avec Alma qui représentera ce soir la France à la finale de l'Eurovision. Si vous ne connaissez pas encore son titre Requiem, ce sera l'occasion de le découvrir. Au sommaire du journal des sports du rugby, avec la victoire hier soir du Stade français face aux Anglais de Gloucester dans la finale du Challenge européen, la petite Coupe d'Europe, alors que Clermont s'apprête à affronter cet après-midi les Saracens de Londres pour la grande finale cette fois-ci de la Coupe d'Europe. Enfin, côté météo, douceur et instabilité, nous dira Jean-Michel Galinski. Peut-être une fin de crise entre François Bayrou et Emmanuel Macron après 4 heures de travail, de discussion et de négociation entre les responsables du MoDem et ceux du mouvement La République En Marche. Un accord semble cette fois-ci avoir été trouvé hier soir sur les investitures législatives, l'objet du litige depuis la publication de la première liste jeudi. Un accord qualifié de solide et équilibré par François Bayrou lui-même, mais un accord encore soumis à l'approbation d'Emmanuel Macron. Normalement, la réponse est attendue dans la matinée.
De très longues heures de discussion entre les équipes du MoDem et de La République En Marche et peu avant minuit, à l'issue d'un bureau exécutif du MoDem, François Bayrou semble soulagé.
Je considère qu'on a progressé et que nous avons bâti un accord qui apparaît, un accord solide et équilibré.
Un accord qui porterait sur une centaine de circonscriptions pour le MoDem, alors que dans la liste dévoilée jeudi par La République En Marche, il n'en avait que 38. Mais au-delà du nombre d'investitures, François Bayrou veut une majorité présidentielle plus au centre.
Il faut que la majorité ne soit pas un parti unique, mais au contraire une majorité plurielle. Et nous souhaitons qu'il y ait une majorité dont le point d'équilibre soit au centre.
Selon le président du MoDem, Emmanuel Macron serait lui-même intervenu dans les discussions. François Bayrou satisfait que le conseiller en communication de François Hollande ne soit finalement pas investi par La République En Marche.
Vous avez vu par exemple que M. Ganzer a renoncé en Bretagne. C'est probablement le Laurence Maillard-Meignery qui sera choisi.
Votre candidat.
Et donc, on a fait un travail sérieux.
Mais pas de confirmation hier soir de l'investiture dans cette circonscription de la candidate du MoDem. Le référent de La République En Marche, d'Ille-et-Vilaine, n'était visiblement pas au courant.
Et donc, vous l'avez compris, le conseiller communication de François Hollande, Gaspard Ganzer, a finalement renoncé à se présenter aux législatives à Rennes sous l'étiquette La République En Marche. Gaspard Ganzer s'est justifié en expliquant d'une part qu'il n'avait pas sollicité cette investiture et que d'autre part, ses attaches était à Paris et non pas en Bretagne.
Une mise en garde des autorités américaines contre une vague de cyberattaques simultanées à travers le monde.
Profitant d'une faille dans les systèmes Windows, des pirates informatiques s'en sont ainsi pris aux ordinateurs du monde entier, verrouillant les fichiers utilisateurs et proposant de lever ce blocage contre rançon. Des hôpitaux anglais, des banques russes, des opérateurs de télécommunications en Espagne ou en Argentine, des organisations, voire des particuliers, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou même en France, ont ainsi été touchés, Bernadette Chamenaz y reviendra dans le journal de 9h. Bain de foule pour le pape François au Portugal. Quelques 400 000 pèlerins ont accueilli hier le souverain pontife dans l'un des sanctuaires les plus visités au monde, le sanctuaire de Fatima. Arrivé en hélicoptère, le pape a été acclamé avec ferveur avant d'assister à la nuit des bougies. Le Saint-Père célébrera aujourd'hui le centenaire de l'apparition de la Vierge Marie dans cette région centrale du Portugal. Mathilde Imberti suit pour nous ce pèlerinage.
Du monde entier, des pèlerins affluent à Fatima, plus une place d'hôtel de libre. Ce couple de jeunes portugais n'a d'autre choix que de sacrifier son confort.
Oui, on va dormir où on peut. On est équipé de sacs plastiques et d'imperméables. C'est pas grave.
Quelles que soient les conditions, on se sent bien ici. Fatima, pour nous, est un endroit très spécial et nous sommes aux anges.
Des pèlerins qui ne se laissent pas décourager non plus par l'imposant dispositif de sécurité. Les hélicoptères tournent en permanence. À terre, 6000 membres des forces de l'ordre. Le risque d'attentat existe. Mais Béatrice, qui arrive de région parisienne, passe outre.
Mais mes amis à Paris, ils me disaient « Mais pourquoi tu vas au Portugal? Il va y avoir peut-être quelque chose. » Je dis « Non, moi je n'ai pas peur. Il faut qu'on aille. » le centenaire de la Vierge de Fatima. C'est très important pour nous.
Dans une prière en portugais, le pape demande la concorde entre tous les peuples. Il y a 100 ans, il était aussi question de paix dans le message que la Vierge aurait délivré à 3 jeunes bergers, souligne ce prêtre de Bayonne d'origine portugaise.
C'est à peu près la même situation politique et économique qu'en 1917. Beaucoup de tensions dans le monde. Donc c'est une grande espérance pour nous.
Un pèlerinage express, le pape repartira à Rome juste après avoir canonisé 2 des jeunes bergers qui ont raconté ses apparitions. À Fatima, Mathilde Imberti, France Inter.
Une visite et un pèlerinage très largement suivi dans la communauté portugaise en France.
Oui, il va y avoir du monde et surtout des embouteillages aujourd'hui dans de nombreuses villes de France.
Oui, c'est la conséquence d'une journée de mobilisation lancée par la Fédération française des motards en colère. Ce matin, dans certaines villes, cet après-midi dans d'autres, ces motards, citoyens à part entière, souhaitent interpeller les candidats aux prochaines élections législatives pour exiger une sécurité routière avec les usagers et non contre eux. Leurs motifs de colère sont nombreux, les dernières obligations prises à leur encontre, et ceci alors que la mortalité des motocyclistes est en baisse constante depuis 2010, mais aussi les mises en place de zones à circulation restreinte. Christelle Robert, la porte-parole de la FFMC de Côte d'Or, reconnaît qu'il est indispensable de prendre des mesures, mais pas n'importe comment. Elle l'a dit à Thomas Nougaillon de France Bleu Bourgogne.
Oui, évidemment qu'il faut faire des choses. Par contre, on se rend compte que la volonté de baisser la mortalité sur la route est systématiquement orientée sur du financier. Alors que la FFMC, ça fait 37 ans qu'on existe et ça fait 37 ans qu'on se bat pour une meilleure formation dès le collège, du post-permis et pour de l'incitation plutôt que de l'obligation. Par rapport aux gants, on va parler déjà de ça, quand ça a été abordé en Conseil national de sécurité routière, différentes associations, dont la FFMC, ont dit qu'il fallait parler d'une incitation plutôt qu'une obligation. Parce qu'il faut savoir que si vous n'avez pas de gants aujourd'hui, vous perdez un point sur votre permis, plus une amende, évidemment. Donc on trouve ça plutôt démesuré. Il faut savoir aussi que sur 12 mois glissants, on est à moins 12% de tués sur les routes en moto. On est les bons élèves de la sécurité routière. Et puis la pollution, évidemment, tout le monde est concerné. Par contre, la moto, on circule à l'essence. Et en plus, au niveau de la pollution, on peut aider à la réduire puisqu'on peut fluidifier le trafic. On prend 2 fois moins de place qu'une voiture. Donc on pense plutôt être une solution qu'une pollution à proprement parler.
Oui, à une sécurité routière concertée, non à une sécurité rentière. Ce sera l'un des slogans que pourront découvrir piétons et automobilistes aujourd'hui. Des automobilistes qui devront faire preuve de patience dans certains centres-villes puisque ces manifestations vont se dérouler dans une quinzaine de départements.
Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir pour les amateurs de chansons. D'ailleurs, Pierre Veil sera devant sa télévision. C'est celui de l'Eurovision qui aura lieu à Kiev en Ukraine.
Avec son lot de crooners, de charme et de chanteuses peroxydées, mais en l'absence remarquée toutefois de la Russie qui ne sera pas présente pour des raisons diplomatiques. Cette finale de la 62e édition de l'Eurovision promet paillettes et costumes kitsch. C'est la chanteuse Alma et son titre Requiem qui représenteront la France. Alma qui va tenter à son tour de mettre un terme aux 40 années de disette pour la France depuis la victoire de Marie Myriam en 77.
Vous vous souvenez Pierre Veil?
Il y aura Springsteen ce soir, Bruce Springsteen?
Ben rendez-vous devant la télé. Hein. Alma qui, à défaut d'être connue du grand public, contrairement à Bruce Springsteen, du grand public français, a donc essayé de mettre tous les atouts de son côté, comme elle l'a confié à Sébastien Baer.
C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de l'Eurovision. Maintenant, ça fait longtemps que je me prépare, etc. Et il ne faut pas laisser passer ce moment, en fait. Il faut vraiment être dans le moment présent. C'est pendant les 3 minutes que tu vas chanter. Ça va être les 3 minutes qui vont faire basculer ta vie. Ça va être l'unique fois où tu vas chanter devant autant de personnes d'un coup. D'autant plus que la France a une image merveilleuse à l'étranger. Et c'est une très, très belle fierté, une très belle responsabilité d'être l'image de la France pendant une compétition. J'ai travaillé dur longtemps. Là, maintenant, je suis prête. Donc, j'ai envie que ma prestation soit à la hauteur de ce que j'espère. J'aimerais beaucoup être dans le top 10, je ne vais pas vous le cacher, parce que c'est une victoire en soi, en fait, d'être dans le top 10 de l'Eurovision quand on vient de la France, quoi. Ça fait longtemps qu'on est dans les bas du classement, donc voilà, ça serait merveilleux, mais on verra.
Quand nous ne tournerons plus, embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes.
Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes, Pierre Veil. Enfin, écoutez, réveillez-vous.
Requiem de la chanteuse Alma en lice donc ce soir pour la finale de la 62e édition de l'Eurovision que ne manquera pour rien au monde, Pierre Veil. Oui. Un rendez-vous, quand même le rappeler, suivi généralement par plus de 2 millions de téléspectateurs à travers le monde. Pas forcément un gage de qualité, certes, mais en tout cas, de quoi nous laisser songeurs, Patricia et Pierre.
Merci, Serge Martin.
Le 6-9 du week-end. sur France Inter.
Le journal des sports avec Jean-Pierre Bimaud. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Les rugbymen du Stade français ouvrent la voie.
Oui, en attendant la finale de la Champions Cup, ce soir entre Clermont et les Anglais de Saracens. Hier soir, les Parisiens du Stade français se sont imposés en finale du Challenge européen, la deuxième Coupe d'Europe. Victoire 25-17 contre d'autres Anglais, ceux de Gloucester. Un titre qui prend une dimension particulière après la saison très mouvementée du club de la capitale, Vincent Pellegrini.
Avant la soirée d'hier, le Stade français avait joué et perdu les quatre finales européennes qu'il avait disputées. C'est donc l'année où le club a failli fusionner avec le Racing qu'il décroche enfin un titre continental. Comme si les joueurs qui s'étaient mis en grève il y a deux mois contre ce projet s'étaient ressoudés, remobilisés. L'équipe s'est métamorphosée, enchaînant les succès jusqu'à cette victoire d'hier soir. Son manager Gonzalo Quesada.
Je suis gavé de bonheur. Comme vous savez, ils ont passé la saison à pas savoir si les clubs étaient là la saison prochaine. Donc les joueurs... C'est sûr, c'était dur à vivre s'il y avait une fusion. À un moment donné, cet hiver aussi, on a entendu la rumeur d'une vente du club. Il n'y a pas un qui a lâché, ils ont travaillé très dur. Et j'en suis sûr, dans quelques années, on en parlera encore.
Le Stade français n'a pas été absorbé par le Racing, mais son président Thomas Savard cherche toujours un repreneur. Les joueurs ont rempli leur contrat pour rendre leur club attractif, souligne leur capitaine Sergio Parisse.
Je pense que la meilleure com qu'on a pu faire nous les joueurs, c'était d'être bons sur le terrain et de gagner des matchs. Donc voilà, on a gagné des matchs, on a gagné un titre européen. Donc voilà, maintenant on attend de voir ce qui se passe dans les prochains jours.
C'est a priori vendredi que Thomas Savard annoncera le nom du ou des repreneurs d'un club au palmarès enrichi depuis hier soir. Édimbourg, Vincent Pellegrini, France Inter.
Autre finale, autre duel entre club français et britannique, ce sera ce soir à 18h, toujours à Édimbourg.
Et dans la principale Coupe d'Europe, Clermont affronte les Saracens de Londres, tenant du titre. Alors en cas de victoire, ce serait le premier titre de champion d'Europe pour Clermont, mais les Saracens sont redoutables. 17 matchs sans défaite dans cette Coupe d'Europe, avec une pléiade de joueurs internationaux anglais, même si ce n'est pas l'équipe qui présente le jeu le plus séduisant, reconnaît le demi de mêlée de Clermont, Morgan Parra.
On peut reprocher aux Saracens de ne pas jouer, mais ils sont champions d'Europe. Ils sont champions d'Europe, ils sont champions d'Angleterre aussi l'année dernière, je crois. Donc tu peux reprocher que ça, des fois ça joue pas, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont champions. Tu peux pas être beau, mais être champion. Et aujourd'hui, quel est le mieux en fait? Je pense que des fois, c'est pas être beau, être champion. Il faut aller le chercher, ça va être encore plus dur que ce quart qu'on a eu à la maison face à Toulon, que cette demi qui va se jouer dans les derniers instants. Et finale, c'est une finale, quoi. Tu réponds dans le combat, tu réponds dans l'agressivité. Et ce qui est sûr, c'est que si tu réponds pas présent devant, t'es mort.
Morgan Parra au micro de Jérôme Val, coup d'envoi à 18h.
Le football et la Ligue 2, suspense total en tête du championnat.
Pas moins de 6 équipes peuvent encore espérer la montée après la 37e et avant-dernière journée hier. De Strasbourg à Nîmes, en passant par Amiens, 3, Lens et Brest. Strasbourg qui était tenu en échec de partout à Niort hier soir et qui est la seule équipe de tête qui n'a pas gagné, mais qui a un point d'avance en tête du championnat et qui peut conclure la semaine prochaine. Le milieu Strasbourgeois Dimitri Liénard se réjouit donc de voir le club alsacien presque au bout du périple.
Si au début de l'année on nous avait dit à la dernière journée qu'on aurait notre destin entre les mains et qu'on jouerait le montant en Ligue 1, je pense qu'on aurait tous dit mais vous rigolez. Maintenant on a 8 jours pour bien préparer notre finale, la finale que toute l'Alsace attend, que tout un peuple attend. Il y en a plein qui voudraient être à notre place et il faut prendre ce point comme un bon point de prix quand même.
Dimitri Liénard du Racing de Strasbourg avec Luc Dreusto de France Bleu Alsace.
En basket, un nouveau coup dur pour l'équipe de France.
Le forfait de Rudy Gobert pour le championnat d'Europe de septembre, après le forfait de Nicolas Batum et la retraite de Tony Parker. C'est donc une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Gobert s'est blessé au genou. Basket toujours, cette fois c'est fait. Villeneuve d'Ascq, sacré champion de France de ligue féminine pour la première fois de l'histoire du club nordiste. Le tennis, ça va fort pour Kristina Mladenovic. Elle jouera la finale aujourd'hui du Masters 1000 de Madrid. Première finale à ce niveau de la compétition pour la nordiste. Ce sera face à la roumaine Simona Halep.
Au championnat du monde de hockey sur glace, l'équipe de France a gagné de justesse hier soir.
Au tir au but face à la Biélorussie, la France assure par là même l'un de ses objectifs, le maintien en Ligue mondiale. Mais à Bercy, les hockeyeurs tricolores ont surtout préservé leur chance de se qualifier pour les quarts de finale avant d'affronter la République tchèque demain.
En sport équestre, l'équipe de France est montrée exact au rendez-vous du jumping de la boule.
En emportant la deuxième manche de la Coupe du Monde, malgré une chute de Roger Yves Bost lors de la première manche, mais Kevin Stott, notamment sur revers de Hurtebise, a emmené les cavaliers tricolores vers la victoire après un troisième parcours de barrage.
Rapporter cette victoire, c'est vraiment un sentiment génial. Le public est présent chaque année, ils sont fervents de ces épreuves par équipe. On voit encore que le scénario de cet après-midi nous prouve à quel point c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autres épreuves comme celle-ci. Ça a été aussi dramatique dans le sens littéral avec la chute de Bosti. Il a fallu se ressouder, essayer d'être solidaire avec lui qui vit un moment difficile. Et puis il a fallu se reconcentrer sur nos parcours. On avait du retard, on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'était qu'à 3 cavaliers en deuxième manche. Enfin, tout ça a mis une intensité extraordinaire. C'est génial. Je suis un homme comblé.
Oui, Kevin Staut avec Laetitia Bernard.
Et puis, c'est pour ça qu'il est comblé, évidemment, forcément, à son micro. Le duel à distance continue entre Paris et Los Angeles pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024.
La commission d'évaluation du CIO est à Paris aujourd'hui. Elle vient de quitter Los Angeles, visiblement bluffée, Loïc Piala.
Jeudi, Patrick Baumann avait des étoiles dans les yeux en visitant le Staples Center, la monumentale salle des Los Angeles Lakers ou le stade centenaire du Coliseum. Du coup, le président de la commission d'évaluation du CIO n'a surpris personne en répétant à quel point son équipe avait été impressionnée par des installations, je cite, « époustouflantes ». Le campus de l'université de UCLA, qui servirait de village olympique, a particulièrement bluffé la délégation. Et les apparitions de Kobe Bryant, Sylvester Stallone ou du patron de Snapchat n'ont certainement pas fait de mal. En plus de son impeccable dossier technique et de sa météo, LA 2024 a mis en avant ses deux hommes forts. Casey Wasserman, le patron de la candidature, et le maire Eric Garcetti, quarantenaires tous les deux, ont évoqué leurs souvenirs lors des derniers Jeux à LA. Baumann, qui les a surnommés les enfants de 84, n'y est pas resté insensible. Avec une telle concurrence, Paris a du pain sur la planche. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et à Paris, la commission reste jusqu'à mardi.
C'était le journal des sports de Jean-Pierre Blimaud. Merci Jean-Pierre. Le temps à Météo France avec Jean-Michel Golinski.
La météo, avec la carte week-end Hop Air France, des réductions sur plus de 60 lignes en France. Rendez-vous sur airfrance.fr ou hop.com. Hop, vous y êtes.
Douceur, averse et parfois orage au programme de la journée. Ce matin, on relève 10 à 12 degrés sur les deux tiers nord du pays, jusqu'à 15 dans le sud-ouest et près de la Méditerranée. Cet après-midi, il est prévu 18 à Caen et Lille, 19 à Rennes, Tours et Paris, 20 à 22 sur le flanc est et près de la Garonne, 23 à Perpignan et à Marseille. Sous un ciel partout variable et incertain, il sera difficile d'échapper à l'averse à un moment ou à un autre, et même à l'orage cet après-midi, plus particulièrement à l'est d'un axe passant par Tarbes, Bourges et Reims. Demain, dans des températures toujours très confortables pour la saison. Une embellie va s'installer par l'ouest, mais plus près des frontières de l'est, vous allez conserver un risque d'averse et même d'orage en montagne.